Bruno Philippe, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on pouvait revenir un petit peu sur votre parcours personnel qui vous a amené en Chine?
Je suis donc correspondant du monde en Chine. J'ai beaucoup voyagé depuis longtemps en Asie, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire grand-chose que l'Asie est un concept vague, mais bon, au départ, moi, c'est plutôt le sous-continent indien où j'ai habité une dizaine d'années, où j'étais notamment correspondant du monde. Donc j'ai beaucoup plus couvert au début de ma carrière, si je puis dire, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, etc., le Sri Lanka. J'ai toujours été attiré par la Chine, parce qu'on ne peut pas ignorer la Chine lorsqu'on s'intéresse à l'Inde. Mais je n'avais pas de disposition spécifique pour partir en Chine.
Hein. Donc c'est le hasard du parcours professionnel plutôt que le parcours personnel.
Enfin, non, je ne dirais pas que c'est un hasard, parce que, je vous dis encore une fois, quand on s'intéresse à l'Asie, forcément, on ne peut pas ne pas s'intéresser à la Chine. Je me suis intéressé au Tibet depuis très longtemps, par exemple, donc forcément, le Tibet, ça menait aussi à la Chine, et donc finalement à la route de Pékin, quoi. Bon.
Depuis quand vous êtes en Chine ?
4 ans.
C'est pas mal, effectivement. Comment travaille un journaliste étranger en Chine ?
Ben, vous voyez, pas loin de nous, il y a le bureau de mon assistante. Quand on est journaliste étranger en Chine, on ne peut pas travailler sans assistant ou sans assistante, à moins de parler couramment chinois, ce qui n'est pas mon cas. Et on est obligé d'avoir quelqu'un qui vous sert de poisson pilote dans un pays où le système est opaque et dans un pays aussi où les gens ont quand même, je dirais pas peur de parler au sens où ils avaient peur de parler durant la dictature maoïste, mais où les gens gardent quand même une certaine réserve, et c'est le moins qu'on puisse dire, voire une certaine méfiance à l'égard des journalistes. Les gens n'aiment pas parler évidemment de politique, mais n'aiment pas parler de... Ils comprennent pas très bien qu'on puisse les interviewer comme ça. Alors c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, parce que très souvent, par exemple, si je vais dans un village de Chine, j'avais souvent dans les villages chinois, on a tendance à se faire passer pour des touristes et puis on engage la conversation avec les gens. Mais on leur dit pas « Bonjour, je m'appelle Bruno Philippe, je travaille pour Le Monde et je suis journaliste ». Non, c'est pas la peine. Donc on devise avec les gens, puis les gens finissent par parler. Et puis très souvent, je ne sors, même quand je dis que je suis journaliste, quand je sens qu'il y a une relation de confiance qui a été établie, je ne sors pas de carnet de notes. Et je me rappelle ce qu'ils me disent. Ensuite, avec mon assistante, on écrit... comme de toute façon l'interview est en chinois, c'est pas, on n'a pas besoin d'une traduction au mot près, quoi. Ce qui compte, c'est quand même le sens de ce qui est dit. Mais je pense qu'il faut aborder les gens de manière la plus détournée et la plus prudente possible.
C'est le seul moyen de contourner la censure, finalement.
En fait, si vous voulez, je ne parle même pas de censure. Alors la censure, c'est une chose, ça fait partie du système politique, mais là, en fait, c'est même pas une question de censure, c'est plus une question de contourner... je vous dis, la méfiance ou en tout cas au minimum l'extrême prudence, le réflexe est d'être prudent et ne pas avoir envie de parler. Alors, sauf bien sûr si vous vous adressez à des activistes, à des militants, à des gens qui quand même essayent de lutter contre les injustices du système, voire même de lutter contre le système tout court. Alors eux ils vous parlent. Et quand il s'agit de rencontrer des paysans spoliés, lorsqu'il s'agit de rencontrer même des citoyens qui, pour une raison ou une autre, dans une Chine extrêmement complexe, sur le plan juridique et sur le plan de la, comment dirais-je, la répression parfois donc des autorités à l'égard des individus et des citoyens, ben alors là, les gens parlent et alors là, vous êtes pris comme journaliste, comme le témoin. Et comme journaliste étranger, c'est dites-le bien, écrivez ça, et essayez de le faire savoir en France. Alors donc là, c'est les gens vous prennent presque comme vous instrumentalisent, pensant que si ils vous disent ce qu'ils ont sur le cœur et qu'ils vous décrivent leurs exigences, que ça pourra leur servir.
Quelle relation vous avez avec vos collègues chinois ?
Les collègues journalistes ? Bah écoutez, ça dépend quel journaliste. J'ai plusieurs amis très proches qui sont journalistes. Alors, eux, c'est une relation de confiance. C'est une relation de confiance. Et puis avec des journalistes qui ne sont pas des amis, mais des connaissances, une relation, je dirais, prudente. C'est-à-dire que mon réflexe, c'est de ne pas faire dans la provocation gratuite, parce que ça sert à rien. Donc j'essaye d'établir un dialogue. Bon, comme vous le savez, on a eu quand même une année très difficile avec les émeutes au Tibet et l'épisode de la torche olympique à Paris. Donc la presse en général et la presse française en particulier, on a été l'objet de critiques très acerbes de la part de journalistes chinois, d'officiels chinois, de fonctionnaires chinois et d'étudiants chinois à Paris. J'ai reçu par exemple un nombre considérable de lettres d'insultes, mais je ne suis pas le seul, hein. Donc je ne m'enorgueillis pas spécialement, mais on a tous été insultés. Donc c'était une année très compliquée. Très compliquée parce que les Chinois parfois ont du mal à faire la part des choses entre le gouvernement et l'individu qui représente un journal. Puisque effectivement en Chine, il n'y a pas de liberté de presse et les journaux sont directement contrôlés par le Parti communiste. Et parfois ils ont un peu du mal, même les journalistes, ils ont du mal à admettre qu'on n'est pas forcément des gens et on n'est pas du tout des gens qui sommes là pour défendre les intérêts du gouvernement français.
C'est ça, vous êtes Bruno Philippe, vous n'êtes pas Le Monde,
Voilà,
forcément.
voilà. Enfin, je suis Bruno Philippe Le Monde et Le Monde ne défend pas les intérêts du gouvernement français. Et effectivement, je ne suis pas seulement Le Monde, mais je suis moi-même. Oui.
Voilà, c'est ça. Donc c'était une année difficile avant les JO, pendant les JO, et alors maintenant, à cette période post-Jeux Olympiques, est-ce que la Chine n'a pas un peu la gueule de bois quand elle s'est réveillée?
Bah, c'est effectivement la question qu'on s'est posée après les Jeux. D'ailleurs, ça a commencé assez rapidement parce qu'en fait, il y a eu l'affaire du lait frelaté qui a éclaté à peu près 15 jours ou 3 semaines après la fin des Jeux Olympiques. Donc, la trêve des confiseurs a été de courte durée, si je puis dire. La Chine a un peu la gueule de bois et d'ailleurs, ça ne va pas s'améliorer parce que là, on commence à comprendre que même si la Chine reste sur le plan de son système financier un peu à l'écart du reste du monde, malgré tout, elle ne va pas pouvoir couper à la récession possible ou en tout cas à l'amorce d'une chute de ses exportations et donc ça va avoir des conséquences sur l'économie et sur l'emploi. Donc la gueule de bois, elle est déjà là et je pense que ça ne va pas s'améliorer.
Quel est votre avis sur la situation au Tibet? Maintenant un petit peu plus à froid.
Bah écoutez, le dernier exemple que je peux vous donner, c'est que j'ai demandé il y a 2 mois une autorisation pour me rendre au Tibet. Elle vient de m'être refusée hier, sous prétexte qu'il y avait eu un petit tremblement de terre au Tibet et que les autorités chinoises ont fort à faire avec les opérations de sauvetage. Il y a eu à peu près une dizaine de morts, hein, donc
Puis
évidemment.
que c'est dangereux pour vous, n'est-ce
Voilà.
pas?
Alors c'est très dangereux pour nous. Et puis l'autre prétexte qu'on m'a donné, c'est qu'il allait commencer à faire froid. Donc pas d'autorisation pour les journalistes avant l'année prochaine. Alors ça veut tout dire parce que. Alors l'année prochaine étant une année, ça commence en janvier, ça se finit en décembre. Je sais pas quel mois. Donc voilà, bah, on ne sait pas ce qui se passe au Tibet. On ne sait pas ce qui se passe au Tibet. On a des idées parfois enfin, on n'a pas des idées. On a parfois des informations non vérifiées et souvent non vérifiables d'emprisonnement, de disparition, de torture. Mais on a une idée très floue. Alors, quand on parle du Tibet, il faut aussi parler de la région autonome du Tibet et puis des régions tibétaines qui sont situées dans des provinces avoisinantes comme le Sichuan, le Yunnan, le Gansu et le Qinghai. Donc là-bas aussi, on n'a pas d'informations. J'ai essayé de me renseigner ces derniers jours pour savoir si des étrangers pouvaient y aller et si des journalistes pouvaient y aller. Et j'entends des informations très contradictoires. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que depuis le 1er janvier 2007, dans la perspective des Jeux Olympiques, on nous a facilité le travail. C'est-à-dire que maintenant, nous ne sommes plus soumis à l'obligation de demander une autorisation de reportage lorsqu'on quitte Pékin. Ça veut dire qu'on peut se promener dans toute la Chine et qu'on n'a pas de besoin d'autorisation préalable. Alors, à part pour la région autonome du Tibet, où il faut une permission supplémentaire, mais ça vaut pour tous les étrangers. Mais quand on parle de ces régions tibétaines non, qui sont situées dans ces provinces avoisinantes dont je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si je peux rentrer. Bon, on a tous essayé cette année, après les émeutes du 14 mars de Lhasa, à aller dans ces régions-là où on pouvait parler avec des Tibétains, on a tous été refoulés. Donc pour peut-être répondre à votre question, la situation au Tibet, j'ai le sentiment malgré tout, bien sûr, que les choses se sont apaisées. On n'est pas, s'il y avait des grandes manifs et des grandes émeutes, on le saurait. La situation à Lhasa, d'après ce que je peux comprendre, elle est pacifiée, entre guillemets, mais elle reste quand même assez tendue. Les gens sortent peu, restent extrêmement méfiants. On est quand même encore dans une atmosphère d'après-crise. Et quant aux régions tibétaines, au Sichuan, par exemple, où il y a eu quand même des émeutes assez importantes qui ont éclaté dans les monastères au printemps dernier, la situation reste extrêmement fragile. La présence policière et paramilitaire est très importante. Donc voilà ce qu'on peut dire.
Alors vous connaissez bien la Chine des campagnes. Qu'est-ce qui restera du monde paysan dans une dizaine d'années en Chine?
Il y a une volonté de la part du régime de pratiquer une politique d'urbanisation assez importante. Bon, là, ils viennent de faire une loi de réforme du secteur rural qui va permettre aux paysans de jouir du droit d'usage de leurs terres. Vous savez qu'en Chine, la terre n'appartient pas aux paysans, mais elle est détenue par la collectivité des villages, donc par l'État. Par le comité de village, en fait, c'est une propriété collective. Mais cette loi va permettre aux paysans, même si jusqu'à présent ils avaient le droit d'usage de la terre et de la cultiver, donc ça va lui permettre de pouvoir louer ou sous-traiter ce droit d'usage à des entreprises agricoles, ce qui permettra d'accroître ses revenus. Bon, ça c'est le but de la manœuvre, si je puis dire. Maintenant, bon, la chose est très complexe parce qu'en fait, il y a énormément de problèmes de paysans spoliés parce que certains ripoux, si je puis dire, du parti sont en collusion avec des constructeurs, notamment évidemment dans l'immobilier, et les paysans se retrouvent en fait expulsés de leurs terres en échange de compensations parfaitement dérisoires. C'est un gros problème, le gouvernement en est conscient et essaye de multiplier des mesures pour justement lutter contre ce phénomène qui menace la stabilité sociale. Il ne faut pas oublier que, bon, sur le plan statistique, il y a quand même encore 750 millions de paysans. Il y a 1,3 milliard et plus de Chinois, ça veut dire que plus de 50% de la population reste quand même paysanne. Alors, ça comprend le problème. Il faut quand même savoir tout de même que ce chiffre de 750 millions comprend aussi les paysans qui sont déplacés dans les villes où ils travaillent, les fameux Mingong, les travailleurs paysans qui sont venus construire les immeubles de la Chine du miracle économique. Ces paysans-là, donc, sont compris dans les 750 millions. Alors, ils ne sont pas vraiment paysans, encore une fois, puisqu'ils sont ouvriers. Donc, qu'est-ce qui va racheter de la Chine des campagnes? Encore une fois, la politique du gouvernement, c'est quand même d'essayer de provoquer de plus grandes concentrations agricoles, parce que présent, les paysans cultivent des lopins de terre extrêmement réduits. Donc, il y a une volonté d'élargir la surface des terres, d'améliorer la productivité et de pratiquer une politique d'urbanisation. D'urbanisation la plus rapide et la plus.
Eh bien, nous verrons dans 10 ans. Que vous inspire cette mutation accélérée de la Chine, dont vous êtes arrivé il y a 4 ans, vous avez dit, mais vous connaissiez déjà un petit peu la Chine avant. Ça,
Oui,
ça vous
j'étais là
inspire
commercial
quoi?
il y a
Ça...
5 ans quand même.
Voilà, donc ça vous inspire quoi, cette mutation, et surtout, quelles sont les conséquences pour le monde?
À un niveau plus empirique, ce qui me frappe, c'est que je suis arrivé à Pékin il y a 4 ans et c'est déjà une ville que je ne reconnais plus. Alors quand j'en parle à des amis étrangers qui sont ici depuis 10, 15, 20 ans, ils rigolent un peu parce que bon bah eux ils savent plus où ils sont. Non, mais le changement est tellement rapide, la façon dont Pékin a évolué dans ces dernières années, même dans ces derniers mois, parce que l'évolution semble toujours être exponentielle en Chine, est absolument remarquable et sidérante. Alors la mutation de la Chine, qu'est-ce qu'elle m'inspire et quelles en seront les conséquences pour le reste du monde? Je pense que c'est très très difficile enfin je vais vous faire une réponse de Normand si je puis dire, mais c'est quand même très difficile de prévoir ce qui va passer en Chine. J'aurais le sentiment quand même que le fameux entre guillemets miracle économique chinois repose sur des bases qui sont pas très solides. Alors, maintenant, il y a plusieurs analyses qui sont faites. Certains estiment que le niveau de vie des Chinois va continuer à augmenter, qu'on va voir l'émergence d'une véritable classe moyenne qui reste quand même encore assez réduite, qu'il va y avoir l'émergence d'un vrai marché intérieur. Alors ça, c'est si tout se passe bien. Bon, maintenant, là, je crois de toute façon qu'on est dans un contexte mondial des plus imprévisibles. Quelles seront les conséquences à court et moyen terme de, sinon la récession, en tout cas de la chute de la dégradation de la situation en termes sur le système financier international? C'est assez compliqué, je veux dire, je ne me permettrai pas de jouer les Madame Soleil en la matière.
Est-ce qu'on peut tout de même s'inquiéter du passage de la croissance chinoise sous la barre des 10% cette année?
On peut s'inquiéter si ça continue à baisser et que ça baisse en dessous de la barre des 8%, parce qu'on sait que pour les économistes, que les Chinois ont besoin d'une croissance de 8% pour assurer un emploi, pour assurer l'emploi. Donc là, on est encore à plus de 9% de croissance, c'est pas la fin des haricots. Mais effectivement, si les exportations continuent à baisser, en dépit du fait que la Chine continue à avoir d'énormes excédents commerciaux, à terme, ça pourrait devenir compliqué. Et pour le gouvernement chinois, la hantise, c'est l'instabilité sociale. Ce régime, si je puis dire, post-89, qui a été relancé au début des années 90 par Deng Xiaoping, qui a fait son grand voyage dans le sud pour signifier que les réformes économiques devaient se poursuivre, ce régime tient socialement par le fait que le gouvernement a su apporter un minimum de prospérité à une partie du peuple chinois. Bon, les derniers chiffres, par exemple, c'est quand même encore 500 millions de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Donc on est quand même encore dans des. Hein, on parlait tout à l'heure de la question paysanne. Bon. Alors, la légitimité du gouvernement, le mandat du ciel version contemporaine, c'est quand même avant tout la poursuite de la réussite économique. Si cette réussite économique commence à s'inverser, qu'il n'y a pas suffisamment de création d'emplois, que le taux de chômage augmente dans un système de parti unique où il n'y a pas de contre-pouvoir, évidemment, bah, là on peut tout imaginer. Hein. On peut imaginer une instabilité sociale grandissante qui soit très inquiétant pour le. Et je ne parle même pas de la corruption, qui est évidemment un problème endémique dont le gouvernement est parfaitement conscient. Hein. Il est le premier à dénoncer la corruption, mais. Là, quand même, en une semaine, le vice-maire de Pékin a été condamné à mort, et le maire de Suzhou a été condamné à mort. C'est-à-dire, c'est quand même.
Oui, tout de même. Mais alors justement, ces Chinois, ils sont prêts à travailler plus pour dépenser plus, pas comme chez nous. Mais comme vous dites, en tout cas pour pouvoir dépenser, il faut avoir un emploi. Et ces dernières semaines, justement, suite, dit-on, à la crise financière mondiale, mais est-ce que c'est vraiment déjà les effets? Il y a des fermetures d'usines. Donc c'est quand même très rapide. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment les effets de la crise ou c'est autre chose?
Non. D'ailleurs, je pars à Canton dans quelques jours faire justement un reportage sur les faillites dans le sud de la Chine. Non, c'est pas un phénomène qui a été provoqué par le krach boursier de fin septembre. C'est un phénomène. Alors évidemment, ça va pas s'arranger, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est un phénomène qui est la résultante du fait qu'il y a, par exemple, les magasins de jouets. Hein, il y a à peu près la moitié des entreprises de jouets de la province de Canton qui a fait faillite en quelques mois. Bon, c'est souvent des entreprises qui sont petites. Il y a énormément de stocks de jouets accumulés en Occident. Il y a évidemment une baisse de la consommation. Donc, c'est un effet immédiat sur la santé des entreprises. Alors, maintenant, la crise financière va évidemment ne faire que accroître les dangers qui pèsent sur les entreprises chinoises, bien sûr.
Alors, comment vit la Chine des provinces par rapport à la Chine de Pékin ou de Shanghai?
Alors, ça dépend quelle province aussi, parce que bon, si on parle des provinces du Xinjiang, donc le fameux Turkestan oriental situé à l'ouest de la Chine, sur les frontières d'Asie centrale, bon, ou si on parle de la province du Yunnan, qui elle est frontalière avec le Laos ou le Vietnam, si on parle de la province du Henan, qui est une grande province très peuplée du centre de la Chine. Là aussi, il y a des disparités sociales qui sont quand même très importantes. Ce qui est frappant malgré tout, c'est que même quand vous allez dans des villes de province relativement reculées, qui sont petites villes, c'est-à-dire on est tout de suite à 100 ou 200 000 personnes, eh ben vous êtes quand même frappé par une relative prospérité, par des galeries marchandes, des rues piétonnières avec des magasins de faux luxe, mais tout de même, on sent que la prospérité, elle a quand même été assez loin. Alors dès qu'on s'éloigne de la ville, là, on est dans la campagne, et alors les disparités sont quand même très fortes. Mais cette Chine des villes provinciales, elle est quand même, on
Alors, on a évoqué le Xinjiang tout à l'heure. Quelle place ont les musulmans dans la société chinoise, ou même les chrétiens, finalement?
Ben, ça dépend quel musulman, parce que les musulmans du Xinjiang sont des musulmans qui ne se reconnaissent pas comme chinois, puisque c'est un peu une sorte de hasard de l'histoire s'ils se sont fait intégrer dans l'Empire et dans la République populaire. Donc ce sont des gens originaires, ce sont des gens d'origine turque, hein, qui parlent en fait une langue turque archaïque. Et puis vous avez d'autres musulmans qui sont eux, ce qu'on appelle les Hui en Chine, qui eux sont des descendants de commerçants arabes ou persans venus avec l'arrivée de l'islam au 9e siècle et qui se sont mariés avec des Chinois ou des Chinoises. Donc là, ce sont des gens qui sont parfaitement intégrés à la Chine. Il n'y a aucun problème ni de séparatisme, ni de volonté de revendication identitaire. Bon, c'est pas toujours facile pour eux parce que l'islam n'est pas forcément toujours bien vu et donc il y a parfois des tensions sociales assez fortes entre Han et Hui. Malgré tout, de manière générale, les Hui sont, encore une fois, assez bien intégrés dans la société. Alors les chrétiens, c'est un autre débat, puisque les chrétiens, vous savez qu'il y a deux. Alors d'abord, il faut parler des catholiques et des protestants. Si on parle des catholiques, comme des protestants d'ailleurs, vous avez deux églises. Il y a une église du silence, une église souterraine, qui est une partie des catholiques qui sont en fait clandestins, qui ne reconnaissent pas le gouvernement chinois, et puis vous avez une église officielle qui, elle, ne reconnaît pas le Vatican, et dont les évêques sont appointés directement par ce qu'on appelle l'association patriotique des catholiques chinois. Donc c'est cette double réalité de l'église catholique qui fait l'objet aujourd'hui d'un marchandage ou de négociation, si je puis dire, entre le Vatican et Pékin. Qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis le milieu des années 50, mais qui essayent de se mettre d'accord pour, dans l'éventualité d'une sorte de réunion de ces deux églises. Mais alors évidemment, ça suppose d'accepter pour le gouvernement chinois que le pape puisse avoir la liberté de nommer ses évêques. Ça suppose aussi pour le Vatican d'accepter le fait que les catholiques chinois sont dans une situation assez singulière, hein. Enfin, donc on n'est pas au bout de la discussion, de la négociation. Et puis les protestants, bah, ça fonctionne un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des protestants officiels et des protestants officieux. Alors ce qui est intéressant chez les protestants, c'est que c'est la multiplication de petites confréries, de petites sectes qui ont beaucoup de succès dans une certaine couche de la population, que ce soit d'ailleurs chez les intellectuels, chez des militants ou des gens du peuple, si je puis dire. Donc ça, c'est un phénomène social et religieux important.
Alors, le sommet européen-asiatique vient de se terminer, l'ASEM. On a cru noter un rapprochement important entre le Japon et la Chine. Est-ce que vous pensez que pour l'Europe ou pour les États-Unis, enfin bref, pour l'équilibre du monde, ça peut changer beaucoup de choses?
Ah, je pense que, bon, quand le Koizumi était encore le Premier ministre japonais, les relations entre la Chine et le Japon étaient extrêmement tendues, puisque vous vous rappelez que le Premier ministre Koizumi se rendait parfois dans ce fameux sanctuaire à Tokyo qui célèbre les âmes mortes des soldats, et parmi ces âmes mortes, il y a des criminels de guerre. Donc ça a été l'objet d'énormes tensions entre le Japon et la Chine à cause de la. Des violences qui ont été perpétuées par l'armée japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, après le départ de Koizumi, la situation s'est un petit peu améliorée. On voit maintenant, avec l'arrivée au pouvoir de Taro Aso, qu'effectivement, il y a une. Alors, son passage à Pékin a semble-t-il été couronné de succès en termes des relations entre Pékin et Tokyo. La communication entre les deux capitales, Alors, qu'est-ce que ça peut changer pour le reste du monde? Je sais pas trop à quoi vous répondre. Je pense que c'est. Non, je pense pas que ça changera grand-chose. De toute façon, la dégradation des relations entre le Japon et la Chine il y a 3 ans n'avait pas eu de conséquences sur le reste de l'économie mondiale. Je pense que là, de toute façon, les Chinois et les Japonais ont tout intérêt à avoir des relations apaisées parce que pour des raisons évidemment commerciales entre les deux pays, hein.
Cela dit, ils peuvent former un pôle extrêmement important économiquement et très fort s'ils sont ensemble.
Oui, ils peuvent former un pôle important, mais bon, faut quand même pas oublier que même s'il y a rapprochement et qu'il y a apaisement des relations entre Tokyo et Pékin, je vois mal la Chine et le Japon devenir, sur le plan politique ou économique, de former un front tel qui puisse être une menace, si je puis dire, parce que je parle pas. En tout cas, si on rien que sur le plan historique, les relations sont quand même des plus compliquées, hein. Donc, on n'en est pas encore là.
La participation de la Chine au futur G20 sur la crise financière, c'est important, le fait qu'elle s'implique.
Mais c'est très important parce que les Occidentaux comptent sur la Chine qui jouit d'énormes réserves en devises. La Chine est riche en fait. Hein. Donc, oui, il est très important pour les Occidentaux que l'économie chinoise continue à progresser. La Chine, paradoxalement, apparaît aujourd'hui aux yeux des Occidentaux comme le sauveur de cette manière. Donc, que la Chine participe au G20 de Washington bientôt, ça marque. D'abord, ça marque le fait que la Chine est tout de même soucieuse et lucide en ce qui concerne l'impact, encore une fois, que cette crise pourra avoir sur sa propre économie. Ça veut dire que la Chine est prête à jouer le jeu. Et pour les Européens, c'était très important justement de les persuader d'être avec eux.
Bruit de Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Nous écoutions un entretien que j'ai réalisé en novembre 2008 avec Bruno Philippe, correspondant du Monde à Pékin.